Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue à Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec David Kelly, ancien libraire spécialisé BD qui travaille depuis une dizaine d'années comme représentant pour le compte du distributeur Madrigal Canada. David Kelly, salut!
Salut!
Merci beaucoup de passer à ce micro. Très heureux de te recevoir. Et là, les auditrices et les auditeurs se disent « Hum, David Kelly,
qui est-ce?
Quel album a-t-il fait? Où est-il publié? » Ben non, David, tu n'es pas un auteur de bande dessinée. Tu as été libraire, à l'imaginaire notamment, à Québec. Et depuis plusieurs années, tu travailles comme représentant. Là, dois-je dire Madrigal ou on dit encore Flammarion?
Alors écoute, officiellement c'est Madrigal Canada.
D'accord.
Mais on a conservé Flammarion. Donc aussi qui est intégré un petit peu dans notre présentation. Donc tu as l'équipe Gallimard.
Ouais.
Parce qu'on est deux équipes, il faut savoir ça. Madrigal, c'est essentiellement l'union de deux équipes.
Et c'est récent cette union-là là, avec Madrigal. Là.
De fin 2023, début 2024.
Ouais, c'est ça, exactement.
Exactement. Donc voilà, donc on a l'équipe Gallimard qui était là depuis des années et les Flammarion qui s'unit sous une seule bannière.
Et est-ce que vous chantez des chansons le matin dans ton bureau?
C'est ça. En fait, à l'interne, il y a un mot qui est passé qui est la Madrigagne.
Non.
Je sais pas jusqu'à quel point. Non, ça, c'est un peu. C'est une blagounette comme ça. Ça fera pas. Ce sera écrit sur aucune carte d'affaires. Mais non, il n'y a pas encore de chanson.
Okay.
Il y en a, puis je suis pas invité.
Alors, t'es pour moi l'espèce de Willy Loman de la mort du commis voyageur, pièce de Arthur Miller. Non, il faut pas que t'aies une vie tragique comme lui. Mais donc, c'est ça. Ton travail, c'est d'être représentant. Donc, toi, tu es l'intermédiaire entre les libraires et votre catalogue que vous représentez.
Exactement. Donc, nous, essentiellement, on défend des catalogues d'éditeurs. On défend les nouveautés que les éditeurs présentent parce qu'il y a énormément de productions, puis ça, on le sait déjà, hein,
ouais.
C'est un peu ça. Et à travers tout ça, à travers un libraire très sollicité, ben, il y a des équipes commerciales rattachées à différents distributeurs, diffuseurs qui vont se promener en librairie, qui vont rencontrer les libraires et défendre ce qui s'en vient.
Et donc, j'aimerais remonter un peu le fil du temps parce que tu as été libraire pendant combien d'années à l'imaginaire?
J'ai été libraire à l'imaginaire pendant 5 ans.
5 ans.
Mais il y a eu après ça Renaud Bré, où j'ai été acheteur.
Ah oui, c'est vrai, tu étais acheteur chez Renaud Bré.
Exactement.
D'ailleurs, si ma mémoire me sert, t'es arrivé en poste après le départ de Martin Brault de la Pastèque.
Exactement.
Ouais,
donc,
voilà.
Martin a été là plusieurs années,
ouais.
Est parti pour se consacrer à la Pastèque à 100%, ouais. Et le siège était vacant, donc moi je suis...
Donc on parle de 2006?
On est en 2006.
2006?
2006, ouais.
Mon Dieu. OK, et donc dis-moi là, parce qu'on se lève pas un matin en se disant « je vais devenir le Willy Loman de la bande dessinée », j'imagine que ton expérience, mais là, dans ce cas-ci, ton expérience de libraire, mais ton expérience d'acheteur aussi pour un groupe de librairie, j'imagine que ça t'a vraiment préparé à avoir une meilleure compréhension de ton travail actuel.
Écoute, je pense que, bon, évidemment, chacun son parcours, mais d'être libraire avant d'être représentant, ça me paraît essentiel. Juste de comprendre c'est quoi le métier, c'est quoi le quotidien du libraire aussi, et de ne pas arriver comme un vendeur d'assurance. Parce que, il y en a peut-être eu dans la profession, puis il y en aura peut-être d'autres aussi, mais de débarquer en librairie en se disant moi, je suis juste pour vendre et j'ai ça. Le libraire va en prendre 24. Tu sais, de penser que ça fonctionne comme ça, c'est pas tout à fait la réalité.
Loin de moi l'envie de nommer des gens et de pointer des institutions, mais à mon époque révolue de propriétaire de librairie BD, moi, je me souviens de quelqu'un qui faisait ce travail-là beaucoup plus comme de la vente d'assurance,
ouais.
À pression que de livres. Donc, est-ce que tu dirais que la passion du médium, ou en tout cas une inclinaison au médium et à la lecture, c'est quand même un plus pour ce travail-là?
Ben, moi, ce qui me concerne, c'est ce qui m'alimente. C'est le contenu. Si c'était pas de la BD, si c'était pas des livres, je ferais pas ce métier-là, assurément.
Bon, il faut dire aussi, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, que tu as été mon représentant.
Voilà.
Donc, c'est, à mot couvert, c'est pas de toi que je parlais. Parce que, bon, évidemment, on a eu beaucoup de plaisir. Toi aussi, il faut le dire, et bien là, ça, c'est moi qui le dis. T'as quand même aussi un beau catalogue avec lequel travailler. Et ça, c'est pas toi qui choisis le catalogue, hein, c'est le catalogue qui te choisit. Et donc, l'idée aussi que tu as été acheteur pour le groupe Renaud-Bré, ben, c'est une autre manière aussi. Donc, tu as été de l'autre côté du Rubicon, en quelque sorte.
Oui, en somme, c'est comme ça. Voilà.
Mais donc, tu sais, libraire puis acheteur au groupe Renaud-Bré, fin des années 90, début des années, milieu des années 2000, le milieu a passablement changé depuis.
Oui.
Tu travailles comme représentant depuis combien d'années déjà?
Ça fait 10 ans.
10 ans.
Bientôt 11.
Alors donc, déjà une décennie. Donc j'imagine que ben, t'es quand même un témoin privilégié de l'explosion du médium. Parce qu'on en parlait d'entrée de jeu, il y a une surproduction. Oui. Ici au Québec, il y a eu, depuis les 15-20 dernières années, une multiplication de structures éditoriales. D'ailleurs, dans votre catalogue, vous représentez l'éditeur québécois La Pastèque. Mm-hmm. C'est le seul éditeur de bande dessinée que vous représentez dans votre
québécois, oui. Oui. J'espère que je ne commets pas un impair. Bon, il y a eu des collaborations entre La Pastèque et Atelier 10
oui,
pour
oui.
certaines BD documentaires, mais oui. sinon, c'est notre principal éditeur québécois de bande dessinée.
Sinon, du côté européen, vous avez notamment Casterman.
Casterman.
Vous avez aussi, au niveau des mangas...
Saka, qui est oui. la collection manga de Casterman. On a maintenant Meian, qui est oui. un éditeur aussi de manga français, et d'autres éditeurs quand même qui font des super trucs. Je pense à Sarbacane.
Ah oui, Sarbacane, ouais. qui est vraiment un éditeur soucieux, hein, qui a des œuvres... Ben tiens, comme représentant, j'imagine qu'il y a une différence entre débarquer avec, je sais pas moi, un Xème album savant sur Tintin mm. et un album d'un auteur obscur chez Sarbacane. C'est-à-dire que ce catalogue-là, il est vraiment particulier parce qu'il y a une prise de risque.
En fait, eux, c'est l'espèce de grenade champ gauche qui est capable de faire une commotion en librairie. Mm. Là, je pense, et j'ai un exemple, 1984.
Ah oui, de Xavier Coste.
Exactement.
Ben oui, c'est formidable.
C'était magnifique. Oh! Graphiquement, une proposition pas si grand public, peut-être sur papier, mais qui a trouvé ses lecteurs, qui a été un succès dans une année où tous les éditeurs s'étaient dit « Hey, on va se faire une adaptation de 1984. »
Oh oui, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu oui. une chez Glénat, je me souviens. Ben oui, parce que c'est tombé dans le domaine public.
Exactement.
Et d'ailleurs, Xavier Coste a récidivé, et je le présente d'ailleurs dans mon top 5 des albums de la rentrée dans le dossier des libraires, 1985. Alors, il est culotté, Xavier Coste, là! Parce que baigné de ce matériel-là, et il l'a exploré avec tellement de panache, ouais. Peut-on faire une suite à 1984?
Ben écoute, les libraires embarquent. Donc tous les libraires qui ont vu le projet font « Ah oui! » Et la question c'est « Est-ce qu'il y a un roman 1985? » Non, je ne penserais pas. Non. Bon, mais ils acceptent la proposition. Ils se souviennent du succès de 84. Puis...
Et bon, moi je l'ai lu sur ma tablette j'ai lu le fichier PDF et vraiment, tu sais quand on entre dans une lecture puis qu'on espère que ça va être au niveau, mm. parce que l'album précédent était extraordinaire, en même temps me disant « mais quelle audace !» Et c'est excellent,
oui,
c'est vraiment, et c'est beau, mais en même temps, tu sais, je vous... Lisez pas ça si vous vous sentez... Si c'est une mauvaise journée qui pleut, fraîche, frette, lisez pas ça.
Non.
Lisez ça au gros soleil, là, avec une bière fraîche, ou en tout cas, une camomille, mais c'est un album formidable. Donc là, toi, par contre... Donc, oui. par exemple, oui. t'as présenté ce titre-là, toi.
Oui.
Et comment était, d'ordre général, la réception là, de tes clients et clientes?
Ben, la réception est très bonne. La majorité se rappelait de 1984 de Coste aussi. Ouais. Et l'outil qu'on a, et qui est très, très terre-à-terre, ben, c'est d'avoir dans notre fiche de présentation, voici ce que tu as vendu d'un titre miroir. Donc, le libraire à qui on présente une BD, ouais. une nouveauté ou tout ça, on a parce que, bon, alors, encore une fois, les libraires sont très sollicités, on a des outils qui leur permettent de se rappeler « Ah oui, c'est vrai! » En 2020, pendant une année, j'ai vendu tant d'exemplaires. Oui, je me rappelle, ça fonctionnait, ou je l'ai aimé, ou que je l'ai lu, ou non. Voilà, donc c'est un gage un petit peu, d'un peu un filet de sécurité pour les rassurer que voici, il y a une base qu'on construit dessus.
Donc, évidemment, les chiffres parlent. Ça, c'est indéniable. Ça, est-ce qu'aussi, dans ton travail, bon, évidemment, tu présentes l'aspect miroir, mais est-ce que ça entre en ligne de compte, par exemple, la réception critique? Est-ce que, par exemple... Dans ton travail, tu peux t'appuyer sur un appareil critique pour sensibiliser tes clients libraires à dire « Ok, ben ce livre-là, le précédent album, critique favorable, est-ce que ça fait partie de ton outillage, ça? »
Tout à fait, absolument. Ce qui est plus difficile, c'est quand le dernier d'un auteur a été une déception. Et là, il revient avec un nouvel album plus fort, parce que souvent, on les a lus en amont, ces albums-là, ouais. Plus fort. Et là, nous, on est convaincus en tant que représentants que, écoute, oublie le dernier. Là, je te jure que celui-là, tu vas retrouver le succès de l'avant-dernier.
Oh mon Dieu!
Et là, on se repose sur la relation de confiance. Généralement, ils nous font confiance aussi. Ouais. Ben là, je connais pas le parcours des autres non plus, mais il y a une confiance qui doit s'installer. Ils savent bien aussi que si on vend de la salade tout le temps, que ça marchera pas. Il y a une méfiance qui va s'installer aussi, ouais. Ce qui est la dernière chose qu'on veut qu'il arrive aussi.
Parce qu'il faut le dire, moi, par exemple, je te recevais à la librairie, ouais. Une fois au mois et demi, peut-être?
Donc,
si tu calcules qu'il y a... là, évidemment, que vous soyez une librairie généraliste ou une librairie spécialisée en bande dessinée, bon, là, c'est différent, mais... il y a plusieurs représentants, parce qu'il y a plusieurs distributeurs, il y a plusieurs éditeurs. Et donc, ouais. Dans la vie d'un libraire, avoir un rendez-vous avec une représentante ou un représentant, ça fait partie de son quotidien.
Exact.
Est-ce que... Parce qu'en 10 ans, puis aussi rétrospectivement avec tes anciens boulots, est-ce que tu as l'impression, comme représentant, que auprès de tes clients libraires, que la bande dessinée gagne du terrain sur le rayonnage? Est-ce qu'il y a plus de curiosité? Est-ce qu'il y a plus de demandes?
C'est indéniable, c'est présent. Bon, puis si je remonte au-delà d'il y a 10 ans, c'est même quand j'étais en librairie à l'Imaginaire, on restait un marché très niché, restait un marché de collectionneurs. On avait vu arriver des Paul à la campagne, par exemple. Des petites choses comme ça qui étaient un peu le début de quelque chose. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais d'avoir des trucs aussi grand public, de voir que la BD... Tu sais, Rabagliati a combien de murailles à Montréal, présentement, tu sais?
Ah oui,
mais c'est ça. Il y a une espèce de démocratisation qui, grâce à plein de choses, mais c'est indéniable que c'est beaucoup plus présent. C'est plus seulement... le truc en marge ici pour les enfants qui ont de la misère à lire. Tu sais, il y a eu une transformation qui s'est faite.
Ben écoute, ne serait-ce que la semaine dernière, à l'émission radiophonique La Journée est encore jeune, Pierre Brassard, dans un sketch, imitait Michel Rabagliati. Mm. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Wow! » Alors ça, il y a 25 ans, j'aurais jamais cru ça.
Impossible.
C'eût été de la science-fiction... profonde et hardcore, là. Donc, on sent vraiment que c'est entré. Et bon, évidemment, ton travail, j'imagine, qui est très différent quand tu arrives chez un client qui est spécialisé BD versus un client généraliste. Donc, j'imagine qu'avec un généraliste, il y a une part plus importante dans ton travail d'éducation.
Écoute, d'éducation, j'ai quand même des acheteurs généralistes qui sont très sensibles à la BD. Okay. Ça devient un petit peu du cas par cas. Là, ce qu'on peut se permettre en librairie spécialisée, c'est d'aller évidemment en profondeur. D'aller fouiller les titres que nous, on importe en plus petite quantité.
Ouais.
Des trucs comme ça, que le 50 exemplaires qu'on commande pour le Québec au complet, là j'inclus Canada aussi,
ouais.
Le généraliste, lui, bah, peut-être, même en un, si j'ai une salle de monde pour mes clients collectivités. Ouais. Mais sinon, je suis pas nécessairement intéressé à ce que tu m'en parles. Et ce que j'ai avec le spécialisé, c'est que... Ah oui, parle-moi-en de ton 50 exemplaires. C'est-tu bon? L'as-tu lu? As-tu des intérieurs? Je peux-tu en avoir un SP pour le lire? Tu sais, on n'est pas sur le même rapport. Et c'est correct aussi.
Tu parlais de collectivité. Permets-moi de saisir... Oui. Cette porte ouverte, ouais. Pour le bénéfice des auditrices et auditeurs. Évidemment, les collectivités, ce sont les acheteurs au niveau des institutions des bibliothèques. Donc, bibliothèques municipales, bibliothèques scolaires. J'ai reçu à ce micro précédemment un bibliothécaire de la ville de Laval avec qui on a parlé de cette réalité que, au Québec... s'il n'y avait pas l'achat obligatoire de collectivité chez des libraires, ben évidemment, le milieu du livre cesserait pratiquement d'exister. Ouais. Là. Mm-hmm. Je veux dire, on achèterait du Daniel Steele au Costco, puis ça serait pas mal ça. Donc j'imagine que aussi, dans ton travail, tu te dois de pointer dans ton catalogue des titres qui peuvent aussi séduire des collectivités. Est-ce qu'il arrive parfois que tu as des titres dans ton catalogue qui sont davantage pour les collectivités que le grand public?
Oui, on le sent bien. Ouais. Il y a une mode présentement de documentaires en BD. Je pense beaucoup chez nos éditeurs européens, d'entre autres Casterman, ouais. La science en BD, les fonds marins en BD, l'espace, et un acheteur libre de librairie qui est sensible à ces bibliothécaires va tout de suite sauter sur l'occasion. Ce ouais. qui ne sera pas le cas généralement pour le libraire de quartier ou qui, lui, ben, c'est plutôt autre chose qui va l'intéresser.
C'est fou ça, parce que c'est ça, c'est que on a l'idée que la lectrice, le lecteur, c'est quelqu'un qui pousse la porte d'une librairie ou qui pousse la porte d'une bibliothèque puis que ça s'arrête là. Mais c'est beaucoup plus que ça. Tu représentes aussi Rutsev.
Exact.
Un éditeur que je trouve très intéressant. D'ailleurs, on y a vu ces dernières années l'auteur de Titeuf,
oui,
Zep, qui a fait d'excellents albums chez Rutsev. Comment ces petits éditeurs de pointe en Europe, sais-tu comment ils perçoivent le marché québécois? Parce que c'est quand même une goutte d'eau dans un océan anglo-saxonne. Je me suis toujours posé cette question-là. Comment perçoivent-ils notre marché? Parce que quand on commande 50 exemplaires d'un titre d'un catalogue pour un continent, je dis, si on regarde purement les chiffres, c'est quand même assez anecdotique.
Exact.
Mais en même temps, est-ce que tu sens qu'ils perçoivent notre marché québécois francophone comme un marché en pleine ascension, en développement, en ébullition? T'as-tu une idée de ça?
Pour la BD, je t'avouerai que je suis un petit peu... Bon, je sais qu'on a des gens qui vont faire des tournées européennes, je pense à Jean-Paul Hyde, je pense à Michel Rabagliati, et qu'ils font très très bien avec succès. Bon, à l'occasion, on va passer un spécial Québec, tu sais, puis je trouve que ça va être un peu folklorique, là, tu sais, mais pour prendre une grande comparaison, cette semaine à La Grande Librairie, qui est une émission française et très écoutée, donc il y avait Sébastien Dulude qui a publié un roman à la Peuplade qui s'appelle Amiante, et il était invité au même titre que des grands auteurs français en même temps sur la même émission. Et en voyant ça, je fais, OK, peut-être que c'est pas juste... On n'est pas juste rattaché au spécial folklorique. Il y a peut-être là une intégration d'auteurs, d'autrices québécois.
Oui, d'autant plus que son roman fait sensation.
Ouais.
Là. Mais oui, tant mieux si on peut un peu se délester de la ceinture fléchée proverbiale, là, parce que effectivement, je pense qu'on est... je pense qu'on peut le dire, on est vraiment rendu ailleurs. Et tu sais, une journée, par exemple, comme le 12 août, j'achète un livre québécois. Bon, évidemment, t'as été libraire. Mais quand t'étais libraire, ça n'existait pas encore, ça.
Pas encore.
OK. Une journée comme ça, là, le 12 août, le livre québécois, j'imagine que maintenant, dans ta routine annuelle, c'est comme Noël.
C'est comme Noël. C'est comme Noël. Pour certains libraires, c'est devenu presque c'est un Noël au mois d'août. C'est exactement le genre d'événement qu'on se disait, bon, ça va peut-être durer 2 ans, c'est le fun, l'idée est noble, on peut pas être contre la vertu, évidemment.
Non.
Ça va s'épuiser un petit peu, et au contraire, ça s'est accéléré, ça s'est affirmé. Il y a des libraires qui ont fermé plus tard. Puis ça, c'était un lundi cette année, hein, quand même.
Oui, puis il pleuvait en plus.
Tout était un peu en disant, reste chez vous, va sors pas. Mais on a des... De ce que j'ai entendu, puisqu'on le voit un petit peu, les libraires se préparent dès le mois de juin. Il y a des éditeurs qui planifient des parutions pour le 12 août. C'est rendu intégré complètement. Ouais. Et les libraires me racontaient qu'il y a des gens qui appellent en disant « Hey, écoute, je ne pourrais pas passer aujourd'hui. Je sais qu'on est le 12 août, mais demain, c'est sûr que je passe. Qui leur demande ça à ces gens-là? Personne. Mais ils se sentent engagés d'aller acheter leur livre le 12.
Quand même. Oui, puis c'est une initiative, au point de départ, c'est une initiative de libraires, là. C'est des libraires.
En fait, c'est des auteurs. Tu as deux auteurs dont, et là, je suis désolé, leur nom m'échappe, ouais. C'est qu'il y a un M. Cazot dans le duo, qui ont parti ça dans un élan de probablement de... Il y avait des journées comme ça, des journées j'achète ci, je fais ci, je fais ouais. ça. C'est arrivé comme ça, l'idée a été reçue par une poignée de libraires et ça s'est propagé partout.
En même temps, c'est le 12 août, c'est juste à, c'est dans les débuts de la rentrée culturelle. Donc moi, je vois là comme une opportunité de vraiment lancer. Est-ce que ça lance en quelque part la saison? Je pense que oui.
Peut-être, oui, il y a ça. On dit que les saisons commencent de plus en plus tôt. Mine de rien. Mais tu sais, le 12 août, il y a des gens en vacances, il y a des gens qui sont moins... le 12 est resté et je pense que c'est là pour rester aussi.
Moi, il y a une chose que je remarque, David, c'est que il y a chez certains éditeurs et distributeurs, il y a vraiment un laps de temps non négligeable entre la parution européenne et l'arrivée ici au Québec. Et là, je remarque qu'on s'en va plus vers un 6 à 8 semaines qu'un 4 à 6 semaines. Est-ce que je...
Écoute, je connais surtout, évidemment, ce que fait Madrigal. On est sur un 4 semaines.
Ben, lâchez pas.
Notre beau travail.
Non, mais parce que c'est chiant, ça.
C'est certain. Et là, attends un instant. 4 semaines, si on n'est pas sur une parution qui est le 15 novembre et plus.
Ah oui, parce que là oui.
Ben, c'est Noël, on oublie ça, ça sera du janvier. Et ça, c'est un deuil qui est souvent cruel et qu'on doit faire.
Oui, parce que... vous vous retrouvez en janvier avec des beaux livres, ouais. Des intégrales, et les gens se retrouvent avec des factures de cartes de crédit astronomiques.
Pas si ça sort entre le 2 et le 15 janvier. Tu sais, avant que la facture de carte de crédit sorte, là, on a une petite fenêtre sortir.
Puis l'argent que les gens ont reçu en cadeau. Exactement. Ouais, les cartes cadeaux, ouais.
Du beau livre très très cher qui aurait dû arriver sur les rayons en début décembre. Ouais, on a ça aussi. Ça, c'est une... C'est un incontournable.
Est-ce que il t'arrive aussi dans ton travail de représenter des catalogues dont certains titres sont tellement populaires à leur sortie en Europe que j'imagine ça arrive des fois là, que l'arrivée est retardée au Québec parce que...
C'est assez rare en fait, je te dirais, parce que les quantités sont sollicitées d'avance. Okay. Donc dès qu'en ayant les programmes des éditeurs européens, il y a tout de suite des quantités qui sont bloquées pour nous, une proportion de quantité qui est faite. Et cette quantité-là est déjà sur un bateau. Bon, il y a des exceptions des fois. Là, je pense peut-être à... Et là, on revient à Xavier Coste. À son pop-up qu'il avait fait pour 1984.
Ah oui, oui, magnifique oui, oui, oui.
Édition, magnifique. Qui est passé en coup de vent, un peu plus cher, mais pas tant. Là, tu disais qu'ils ont voulu ravoir des stocks, c'était terminé. Donc la France s'est gardée pas mal.
Oui. Ça, je me souviens de ça. J'avais eu du mal, moi, comme libraire.
C'est le genre de trucs comme ça, d'édition spéciale, collector qui traverse des fois, pas tout le temps l'Atlantique, mais généralement, comme tout est fait en amont, ben, on est devant le fait accompli. Fait que oui, ça s'enflamme peut-être ici, mais on sait qu'on a une quantité qui s'en vient sur un bateau. Là, l'autre problème, c'est qu'il n'y en aura pas assez. Et on est dépendant après de la réimpression en France.
Oui, mais bon, en même temps, on ne peut que se réjouir de succès tel, même si, comme lectrice, lecteur, libraire, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir servir tout le monde. Mmh. En même temps, c'est un indicateur de succès.
Exact. Et là, on rentre dans ce qui est le plus compliqué, je pense, autant pour l'éditeur québécois qui doit en avoir impression parce qu'il y a un succès, autant en tant que distributeur-diffuseur de se dire « bon, là, ça s'enflamme ». Combien on en commande?
Ouais.
Et est-ce qu'on va les sortir? Alors voilà, c'est cette espèce de... C'est gérer un succès.
Parce qu'il faut le dire, il y a un élément non négligeable dans l'équation mathématique et ce sont les retours.
Mm-hmm.
Parce que les livres à l'office, les libraires en prennent une quantité X, mais ils ont, sur la nouveauté, sur l'office, ils ont un an pour retourner des invendus. Donc, il y a ça aussi que l'éditeur doit tenir compte.
Mm-hmm.
Et ça, ces chiffres-là, ils ne les connaissent pas à l'avance du nombre de retours.
C'est l'espèce de boomerang qu'on lance et qui peut nous revenir.
Oui, l'analogie est vraiment excellente. Ouais. Des fois, ça peut être assez frontal.
Probablement, oui.
Mais bon, dans le moment, il faut servir le plus grand nombre. C'est une problématique. Surtout, tu sais, ça coûte tellement cher imprimer des livres. Puis, tu sais, les chaînes de production, je me souviens, il y a quelques années, lors des incendies dans l'Ouest canadien, les bateaux au port de Vancouver, les marchandises ne pouvaient pas traverser sur le chemin de fer. Donc, on était pris. Saint-Laurent, ça gèle l'hiver où il y a un truc. Les bateaux sont pris. Il y a une tempête en mer. Il y a des containers qui prennent la flotte.
Et grève au port de Montréal aussi.
Grève, ouais.
Et là, il y avait une grève en France au Havre. Donc là, c'était décalé. Et tout ça, c'est pas mon quotidien. Ouais. Mais j'ai un collègue qui le fait assez bien d'ailleurs, qui gère tout ça. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y avait aussi déjà? Et là, je remonte à une vieille anecdote, mais un container qui tombe dans l'eau.
Oui, ben c'est ça.
Oui, c'est ça. Excuse-moi. Donc, c'est ça, exactement.
Puis tu sais, un container qui tombe dans l'eau, c'est rarement ton truc à 50 exemplaires obscurs. Là. On parle d'un container d'Astérix ou d'un truc. Ah ouais,
évidemment.
Oui,
oh, mon Dieu. Le destin s'acharne.
Ouais. Comme lecteur, parce que bon, évidemment, tu as été libraire. Puis bon, faut le dire, là, dans ton catalogue, tu défends, tu représentes la bande dessinée, mais pas que. Mm-hmm. Tu as aussi du roman.
De tout, cuisine, essai, livre pratique. Donc, moi, j'avais été embauché à la base il y a 10 ans, plus de 10 ans, chez Flammarion, comme spécialiste BD et jeunesse.
OK.
Mais les structures de diffusion, comme encore récemment, changent beaucoup. Et on a intégré donc beaucoup d'éditeurs. Et là, on m'a dit, David, tu seras plus représentant jeunesse BD, tu vas être généraliste. Et c'est sincèrement, puis là, je suis pas juste dans le discours corporatif, là, mais c'est probablement une des meilleures choses qui m'est arrivée. C'est-à-dire que là, je me suis dit, OK, je suis capable de faire autre chose et de diversifier mon catalogue.
Est-ce que tu testes des recettes, des livres que tu...
En fait, tu pourrais m'inviter pour un podcast de livres de cuisine.
OK, excellent. Excellent. Ouais. Puis aussi de croissance personnelle, de vedette aussi. Personnelle. Ça, c'est toujours très, très
Absolument.
Le fun, les histoires de vie. Mais donc, dirais-tu que... parce que, évidemment, tu représentes des ouvrages, donc il faut que tu lises. Évidemment, tu vas lire d'abord les ouvrages que tu représentes, hein, ça va de soi. À quel point ta culture de bande dessinée que tu t'es construite au fil des années comme lecteur... J'imagine que c'est un extraordinaire outil, que ça te sert à tous les jours.
Oui, avec... évidemment, des fois, l'herbe est plus verte chez le voisin. Donc, évidemment, quand je vois un voisin qui a le nouveau Gaston, par exemple, ou des choses comme ça, je fais « Ah! C'est quel? »
Ah un oui!
Un truc qui aurait été chouette à gérer et à faire.
Ouais.
Mais je suis pas du tout à plaindre. On a un super catalogue, on a plein de titres qui sont... Puis bon, peut-être qu'à l'occasion, le voisin dit la même chose de Madrigal aussi, hein.
Ah oui, assurément. Parce que, tu sais, le Gaston, t'es content quand tu l'as.
Ben oui, évidemment.
Mais c'est arrivé une fois, là.
Oui, exact.
Bon, l'Astérix, lui, est aux deux ans.
Il est aux deux ans.
Mais j'imagine l'Astérix, là, c'est ça, ça tombe sur des listes automatiques, dans le sens où les libraires font, vont pas réfléchir au nombre qu'ils vont prendre, c'est, ah ouais, j'en prends 50, j'en prends 100, j'en prends 300, puis go. Mais c'est ça, donc, est-ce que tu dois garder intact ta capacité d'émerveillement. Puis je m'explique, c'est que quand on fait un travail où la lecture est au centre et au cœur de notre pratique, et là, je vais me citer en exemple, tu sais, moi, je lis une quinzaine d'albums de bande dessinée par semaine. Ça serait te mentir, mon cher David, et j'oserais jamais faire ça, te dire que ma capacité d'émerveillement est intacte. Mm-hmm. C'est qu'à un moment donné, il y a une fatigue qui s'installe, parce que quand on lit les grands... Puis moi, c'est pour ça que comme lecteur, sur mon temps de lecture personnelle, souvent, je retourne au classique m'abreuver parce que je trouve là une source d'émerveillement. Mais il est vrai que quand on lit, quand on est beaucoup dans la lecture de nouveautés, il y a un moment donné où il s'en fait beaucoup. Est-ce que tu trouves ça difficile, toi, comme lecteur, ou de conserver cette espèce de capacité d'émerveillement, là? Puis... Il faut le dire, là, tu défends un très beau catalogue, là.
Tout à fait,
Tu as de belles structures éditoriales, là. Est-ce que tu trouves ça difficile? Tu sais, par exemple, là, dans ton catalogue, tu as, par exemple, un nouvel album d'un auteur très connu. Et, tu sais, c'est pas son top. C'est pas son top 25, mettons.
Ouais.
C'est comment de défendre ça?
Donc, tu parles d'un album moins...
Ben, un album moyen, mettons. Par exemple, on va prendre un auteur connu qui a signé des albums là, vraiment conséquents. Et là, l'album, le prochain, son nouvel album est attendu. Tu l'as lu. Et tu sais que c'est pas au niveau. Est-ce que c'est difficile, un, comme lecteur, deux, comme représentant?
Écoute, ici, je pense qu'il y a d'un commun accord avec souvent le libraire. Mm-hmm. C'est souvent dans le non-dit. Lui, il va peut-être le voir comme un énième titre de cet auteur-là. Ouais. Il est suivi. J'ai des lecteurs qui vont revenir à la charge, qui vont le réserver, qui vont le prendre et qui risquent de revenir au prochain. Donc, et même des fois, puis tu l'as vécu comme libraire, un client peut arriver en te disant que ce truc-là, c'est terrible, c'est épouvantable, mais il va revenir au prochain quand même. Tu sais, ce petit côté un peu de résilience ou de ben, je suis un auteur, je suis attaché, puis je reviens.
Ouais, accepter d'être un peu déçu, passablement déçu, où il y a une dépendance aussi. C'est le propre aussi des séries. Il y a des gens, tu sais, je parlais d'Astérix. Il y a des gens qui achètent un nouvel Astérix par habitude.
Bien sûr.
C'est quand même réjouissant que d'acheter une bande dessinée puisse devenir une habitude. Donc moi, je sais qu'il y a des puristes là, qui décrit le fait qu'à chaque album d'Astérix, il y a des gens qui l'achètent invariablement. Moi, je suis plutôt de l'école de me dire, ben sur ce, il y a un pourcentage de rétention de ces gens-là qui vont lire autre chose. Oui, il y en a qui vont acheter l'Astérix, ils vont le lire, ils vont le mettre dans la bibliothèque ou ils vont le donner à leur petit-fils ou quelque chose comme ça, mais il y en a là-dedans, il faut avoir l'espoir. Je trouve quand même que c'est réjouissant qu'il y ait des gens qui aient l'habitude d'acheter un album, même si c'est un peu... sur le pilote automatique.
Et tu sais, comme lecteur, notre déception ne fait pas foi de tout. Quand on est dans un milieu de la librairie, même si j'étais déçu, encore là, il y a des lecteurs qui vont être très heureux du truc. Ou là, c'est de faire la part des choses. Puis peut-être l'expérience te dit que ça aussi au fil du temps. Ce n'est pas parce que tu n'as pas aimé un truc que ce ne sera pas un succès de librairie non plus. Parce que, attention, tu coupes. Il se vend des choses pas très bonnes à l'occasion.
Non. Hein? David, ben voilà. Arrête! Heureusement que je suis assis.
Breaking news.
Oui, ben oui, effectivement, il y a des choses qui sont pas très à niveau et qui pourtant, ça occupe soit beaucoup d'espace en succursale, soit dans les médias aussi, parce mm-hmm. qu'il faut pas se leurrer. Il y a aussi parfois de la complaisance de ce côté-là. Et il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau livre, font tous les plateaux. Encore là, il faut se réjouir du fait que dans les médias, on parle de littérature. Mais des fois, ce serait bien aussi de laisser le crachoir à des gens. Mais ça, évidemment, c'est pas ton département. Ça, c'est le département des attachés de presse Dieu sait, travaille très, très fort, elle et eux aussi. Là. Ouais. Je voulais voir avec toi aussi au niveau du manga, parce que s'il y a quelque chose dans les dernières années, dans les deux dernières décennies, vraiment, qui a connu une explosion, au niveau de la popularité, de la consommation, de la vente, ce sont les mangas. Mm. Toi, ton catalogue, t'as notamment Jiro Taniguchi. C'est quand même pas banal. Là, j'ai vu qu'il avait commencé à rééditer Taniguchi dans le sens d'origine de lecture.
Exact, ce qui était demandé depuis très, très longtemps.
Ouais.
Alors, ça s'est fait depuis quoi, 3-4 ans? Ils vont tranquillement, Casterman, avec, bon, évidemment, au début, L'Homme qui marche, Journal de mon père, Quartier lointain. On est sur les classiques. Et là, mais ils font l'entièreté du catalogue. Là, j'ai vu que Le temps des bas de chance s'en vient. Tu te rappelles de sa série historique?
Oh mon Dieu! Oui. Hey, ça, c'est costaud.
Hein? C'est costaud. Avec une fin inédite qui devrait arriver peut-être l'année prochaine.
Mais donc, le manga, est-ce que ça t'exige un travail supplémentaire auprès de ta clientèle de libraire? Parce que moi, dans ma pratique, je le sens, puis je présente des conférences sur le manga et j'en présente en milieu scolaire et en milieu professionnel.
Oui.
Je fais de la formation auprès de libraires, auprès de bibliothécaires et souvent, le manga, c'est ce qui se rapproche le plus de croiser un chevreuil sur l'autoroute avec le regard paniqué. OK?
Ouais,
Est-ce que tu sens encore ce regard-là auprès de ta clientèle?
Écoute, rassure-toi, il est toujours présent.
Le chevreuil?
Toujours présent. Je pense qu'il y a une reconnaissance de l'importance de la place qu'a pris le manga, la nécessité d'en présenter aussi, parce qu'il y a une clientèle très captive qui revient et qui connaît son truc.
Ouais.
S'il y a un petit angle mort, et je m'inclus là-dedans, où des fois on est un peu largué, c'est là, c'est dans le manga, qui a ses codes, qui a ses sous-genres, qui a... Heureusement, il y a des spécialistes qui ont émergé, il y a des éditeurs qui ont réalisé qu'ils ne peuvent pas être sur le pilote automatique aussi. Ils doivent essayer le plus possible de nous dire est-ce que c'est un shoujo, est-ce que c'est un shonen, est-ce que où on est avec cette nouvelle série-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail d'éducation à faire encore.
Oui, parce qu'il y a des décennies d'arrière-âge. Oui. Tu sais, on parlait de Jirō Taniguchi. Tu sais, ses œuvres de jeunesse sont traduites en français. Puis bon, là, tu dis, OK, on est rendu dans les œuvres de jeunesse. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel dont on ne connaît même pas l'existence parce que c'est en cours de traduction ou même pas encore. Donc... il y a un certain rattrapage, et aussi parce que c'est une culture qui est dense, qui est multiple.
Avec un rythme de parution incomparable à celui de l'Europe. Et ça, ça a dû probablement bousculer un petit peu nos éditeurs européens dire, ben là, ton album que tu faisais de papère aux 3 ans, c'est parce que là, on a ça, on en veut un petit peu plus. Non, je pense qu'il y a eu... ça a changé l'environnement.
Oui, parce que le manga compétitionne à l'intérieur de l'écosystème de la bande dessinée. Le manga est en propulsion. Ouais. C'est stratosphérique, là. Mais est-ce que tu sens que tu dois t'outiller différemment quand tu présentes tes titres? Bon, c'est sûr que... Bon, Jirō Taniguchi, c'est quand même... C'est quand même une valeur sûre, là. Grand auteur. Mais aussi, on n'est pas dans le manga très hardcore non plus avec Taniguchi. Tu sais, par exemple, L'homme qui marche, on est dans quelque chose de contemplatif, là. On n'est pas dans on n'est pas dans le découpage d'un coup de poing se décline en 6 pages, là. Hein? On est... Mais est-ce que... Donc, j'imagine que ça exige une préparation autre que de présenter du manga à la clientèle?
Que de la BD, peut-être.
Ouais, ben que de la bande dessinée, peut-être plus classique.
Écoute, là, ici, ça dépend avec qui je m'adresse. Quand je présente, des fois, je tombe sur des libraires qui en connaissent plus que moi, et c'est tout à fait correct, et qui vont un peu me guider dans le truc en me disant « Hey, ça, c'est sur Crunchyroll, ça... » Et là, je suis allé googler rapidement Crunchyroll pour voir qu'est-ce que c'est. Là, je te parle d'au début. Je pense qu'il y a un travail un peu d'humilité, idéalement du libraire et du représentant, de dire j'arrive pas ici en sachant tout, donc je vais prendre tes feedbacks, tu sais, je vais prendre ce que tu vas me donner. On doit s'alimenter, et ce que je dis là est vrai pour tout ce qu'on fait dans notre rencontre, d'attendre, et le libraire qui a lu cet auteur-là qui arrive dans mon catalogue que moi j'ai pas lu, ben c'est de me fermer la boîte un instant et d'écouter ce qu'il dit et d'en prendre note.
C'est vrai que c'est un peu une danse. Hein? La fameuse expression « it takes two to tango ». Moi, je me souviens, quand je recevais mes représentants, mes représentantes, bon, c'était du cas par cas, j'avais mes préférés. Peut-être que t'en faisais partie. Okay. Peut-être. mais c'est ça. Donc moi, comme libraire spécialisé, qui de plus en plus connaissait sa clientèle... qui était dans un milieu économique X aussi, parce que, bon... Et donc, moi, souvent, je recevais mes représentants en ayant un plan d'attaque, en me disant, OK, ça, je sais que je vais en prendre à peu près, mais encore là, moi, j'ai beaucoup appris au contact de gens comme toi, parce que tout à coup, c'est vrai que ça exige de l'ouverture. Et tout à coup... Quand j'avais un représentant devant moi, je me disais, ben, tu sais, oui, il y a l'impératif que lui, il faut qu'il fasse de la vente, mais c'est pas de la vente pyramidale, là. Mm-hmm. Donc, t'es pas en train de me pousser ça dans le fond des amygdales. Et parfois, et là, je vais parler de toi spécifiquement parce que j'étais devant moi, il y a à quelques occasions des moments où tu as dirigé mon attention sur des choses en me disant, Dom, il y a ça, sans pousser. Et après coup, je me disais, ah ben, il a bien fait son travail. Parce que un, je connais pas tout. Puis deux, faut que je le laisse faire son travail. Moi, j'ai fait le mien au préalable, puis j'ai pointé dans ton catalogue des titres qui m'intéressent avec des quantités approximatives. Mais il faut aussi que Mais comme libraire, je me devais aussi de rester ouvert, parce que j'ai pas la science infuse. Donc oui, je pense... qu'on est meilleur dans notre travail quand on est à l'écoute de l'autre.
Et moi, c'est l'aspect qui m'allume le plus, c'est d'être avec un libraire et de regarder ce qui s'en vient et dire, écoute ça, je pense que t'aimerais ça comme lecteur. j'aimerais ça t'allumer là-dessus. Tu es réceptif, tu prends le truc et on fait un bon coup ensemble. Et tout le monde est gagnant dans le truc. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus stimulant comme exercice que d'arriver quelque part avec des quantités un petit peu imposées dans ma tête.
Ouais.
Y aller de façon automatique. Bon, il y aura une part d'automatisme dans ce que je fais puis dans ce qu'on se fait, quand on fait comme travail au quotidien, ça fait partie. Il y a trop de parutions pour ne pas devoir faire ça. Mais de s'arrêter et de dire, hey, un instant, ce truc-là, oui, ça c'est toi, je l'ai lu, c'est vraiment bon, on y va. Et ça devient éventuellement un succès.
Dans ton quotidien de représentant, bon, évidemment, tu fais de la route.
Oui.
Chapeau bas. Chapeau bas.
Ouais.
Ton territoire est quand même assez grand.
Ça a changé. Écoute, j'ai couvert une bonne partie du Québec, je t'avouerai. Présentement, c'est principalement Montréal, la Montérégie, jusqu'à Sherbrooke. Et j'oublie pas mes amis de l'Abitibi aussi, que je vais pas là régulièrement.
OK, mais... parce que t'es à côté de Sherbrooke.
C'est à côté.
C'est drôle. Ah, c'est ça.
Il y a un raccourci, je t'en parle.
Hey, moi, juste de savoir que tu circules à Montréal, tu sais,
ouais.
Oh, mon Dieu, les gens se rendent pas compte. C'est plus simple d'aller... je pense que parfois, ça prend le même temps de se rendre à Granby ou à Sherbrooke ou à Drummondville.
Faire Villeray, ouais. Rosemont, ouais, ouais.
Verdun, ouais. Ouais. Donc, évidemment, tu fais beaucoup de routes. Qu'est-ce que... Au niveau de la répartition du temps, je me suis toujours posé cette question-là.
Ouais.
Mettons, dans une semaine, là, tu rencontres approximativement combien de librairies ou de libraires?
Écoute, ça dépend un peu. Ce qui a changé dans la donne, c'est la pandémie. Donc, avec la pandémie, on a été forcé de faire un travail à distance. Des libraires se sont équipés de caméras pour pouvoir travailler sur Teams et d'autres plateformes. Donc, le métier a changé. Il reste que la visite en librairie d'un représentant fait partie intégrante du truc. Moi, je trouve ça quand même essentiel d'avoir une idée de l'espace du libraire.
Ouais.
Savoir, par exemple, que son rayon BD, ben, c'est des cubes. Il y a ça, il y a ça. Il y a deux bibliothèques. Ou non, il y a une tablette maintenant parce qu'il a mis de la croissance personnelle. Donc, c'est de pouvoir avoir une idée de ce que le libraire a comme espace. Puis d'être là physiquement, c'est quand même plus chouette, plus convivial comme travail.
Ouais.
Mais pour répondre à ta question, ça dépend. J'essaie, donc au début, en tant que jeune représentant très 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 motivé, c'était des 4 rendez-vous par jour. Avec des quand c'était possible physiquement, et bien ça, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Puis au dernier rendez-vous, ben t'es plus là.
Hein? Ben, t'es fatigué, là.
T'es fatigué, ouais. T'as moins. Et peut-être que ce rendez-vous-là de fin de journée aurait mérité que ce soit une journée complète, parce que le libraire, à l'occasion, ne peut pas te recevoir aussi dans son bureau, dans les meilleures circonstances. Des fois, c'est à la caisse. Alors, parce
oui,
que
debout au comptoir, debout, ouais, ouais, ouais.
Son collègue est malade, il y a un employé qui n'est pas rentré. Donc, c'est d'être, c'était très, très, très inconscient de se pacter autant en horaire que ça. Puis, ultimement, c'est de, maintenant, avec le temps, c'est de faire des rendez-vous qui comptent. C'est-à-dire que si je vais te voir, ben, j'ai un programme pour toi.
Ouais.
Notre discussion, notre travail aura un impact. Si c'est un petit programme d'été où il y a 3 titres, ça va me faire plaisir de te voir. Mais est-ce que je vais vraiment aller te rencontrer? Je vais te faire perdre ton temps, tu sais?
Alors, la fameuse phrase, ceci aurait pu être un courriel.
Absolument. C'est voilà, c'est ce que j'avais entendu.
Alors, c'est la différence entre un fonctionnaire qui est constamment... Puis là, bon, on le sait, là, c'est pas une idée préconçue, là. Mais on est souvent en réunion, hein, quand on travaille dans le fonctionnariat. Mm-hmm. Et donc là, dans ce cas-ci, est-ce que tu fais encore... Le rendez-vous Zoom ou le rendez-vous en visioconférence, est-ce que c'est encore intégré dans ta pratique?
Tout à fait. Je pense à des clients de l'Abitibi, par exemple, ou des clients, puis mes collègues représentants ont l'équivalent de clients éloignés. Ou un matin de tempête de neige, je dis à mon libraire, écoute, tu restes à la maison pour travailler? Moi aussi, faisons ça à distance. On va avancer le programme, ça va bien fonctionner. Oui, mais c'est intégré au quotidien, assurément.
On parlait de surproduction tantôt. J'imagine que ça a grandement impacté ta manière de pratiquer ton travail, au-delà du fait que tu as intégré aussi du livre autre que de la bande dessinée dans ton travail de représentant. Mais, tu sais, il y a 10 ans, quand tu as commencé comme représentant, versus aujourd'hui, il se publie, somme toute, plus de bandes dessinées. Ouais. Peut-être qu'il y a 10 ans, on était autour du 5000 nouveautés francophones.
Oui. Incluant réédition.
Oui, incluant réédition, omnibus, machin. Ouais, OK. Et donc là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, on doit être... Avec le manga, on est quoi, à 7? je sais, j'ai pas les chiffres, j'ai pas vérifié avant de te parler, mais on est au-delà du 5000.
C'est
là.
Beaucoup. Ouais. Et ce de là, je l'ai vécu comme libraire à l'époque, où je me rappelle de semaines où je pouvais lire toutes les nouveautés qui arrivaient.
Et
là, là, je te parle de 2001. Ouais. T'as 20 ans, t'as du temps. Ça va bien.
Aussi, en plus.
Et de mener de faire, ben là, il faut que je lâche prise parce que j'y arriverai pas. Et quand, tranquillement, le marché s'est dirigé à 5000 parutions, là, c'est tout simplement impossible.
D'ailleurs, j'imagine que c'est un enjeu pour les représentants, l'espace. Parce que quand tu proposes un catalogue, évidemment, après ça, quand les livres arrivent en librairie puis qu'ils ouvrent les boîtes, ben, on espère qu'ils vont occuper un espace de choix.
Exact.
Mais la durée, elle, dépendamment d'une librairie à l'autre, évidemment, ça diffère, mais tu sais, la durée de vie de la visibilité d'une nouveauté en librairie, là, au niveau de la bande dessinée, ça, c'est très, très bref. Là.
C'est très bref. Des fois, c'est un exemplaire au rayon. Et après 4 mois, c'est fini. Sa vie est terminée. Donc là, ça dépend des systèmes de gestion, ça dépend de plein, dans quelle période de l'année on est aussi, mais c'est très cruel et rapide aussi. Maintenant, je pourrais pas faire la leçon en disant « Hey, garde-le 12 mois parce que dans un an, tu vas voir, il va se passer quelque chose. » Ça vient avec ça. C'est cette espèce de gestion un petit peu de façon très, très pragmatique, un peu cruelle aussi. C'est pour ça qu'il faut essayer de passer ou d'attirer l'attention sur les trucs qui peuvent être mis de l'avant, qui peuvent se développer un peu aussi.
Est-ce que donc c'est la meilleure manière de répondre à la surproduction, c'est-à-dire de pointer des albums, des titres qui peuvent avoir une belle vie en librairie.
Exact. Et c'est ce que j'apporte au libraire. En revanche, un libraire, moi, c'est pas moi le spécialiste de sa librairie. Lui est, c'est son quotidien, il connaît son truc. Moi, ce que j'apporte, c'est une vision globale. Donc, et peut-être une connaissance un petit peu plus fouillée du catalogue, en se disant, ben là, ce truc-là, j'ai vu que ça vendait à tel endroit et tout ça, et sans te dire quoi faire, ben moi, je pense que ton exemplaire de la science en BD, ou ça pourrait être n'importe quoi, ben garde-le donc, parce que, à mon avis, tu vas le sortir. Ou tu sais, prends-en donc 4, parce que je pense que j'ai vu ailleurs que ça pouvait s'envoler, ça pouvait se développer un peu.
Évidemment, j'imagine aussi que tu te réjouis que ton patron, en fait, que la boîte pour laquelle tu travailles se réjouit quand tout à coup un libraire obtient son accréditation pour vendre aux collectivités.
Bien sûr.
Ça aussi, c'est quelque chose qui change, j'imagine, dans ton rapport. Puis au niveau des quantités, mais au niveau aussi de la... Là, t'es plus juste... Oui, t'es dans la nouveauté, mais t'es dans la nouveauté au sens large. Parce que comme on le disait plus tôt, ce qui entre dans une bibliothèque n'est pas forcément... Ou en tout cas, ce qui... Ce ne sont pas les mêmes albums qui sont fréquentés forcément en librairie et en bibliothèque. La surproduction, est-ce que tu vois un bout à ça, toi? Tu sais, là, tu as vécu un cycle de 10 ans, tu as vu la courbe ascendante. Est-ce que tu sens, de ta perspective à toi, est-ce que tu sens que ça va continuer comme ça sur une lancée ad vitam aeternam? Est-ce que tu sens qu'il y a un ralentissement? Est-ce que tu sens auprès de ta clientèle que tout à coup, dans ton rapport avec eux, ils aiguisent leur regard et tout à coup, ils visent mieux et davantage leurs besoins?
Si c'est appelé à diminuer de façon drastique, puis je pense que ça l'est un peu. Peut-être dans les dernières années, on a senti un petit ralentissement ou des éditeurs qui en faisaient un petit peu moins. Bon, après ça, des fois, c'est vertueux. Hein? Hey, j'en publie juste 364 cette année. L'an passé, c'était 380. T'sais. Des fois, c'est une différence de 10 titres. Ça, ben oui, OK. Mais je pense que c'est présent. Je pense pas qu'il y a un plan machiavélique derrière tout ça d'oppresser les libraires.
Non, il n'y a pas de conspiration.
Il n'y a pas de conspiration. C'est souvent des petites équipes. Et avant, j'avais un rapport un peu quasiment fâché. Oui, pourquoi vous en avez... Pourquoi il y a autant de titres? Pourquoi... Et avec le temps, je me suis dit, ben, c'est des petites équipes, c'est des petites structures. Ils veulent faire un nombre de productions dans l'année.
Ouais.
Quand on est au Québec, des fois, il y a évidemment des subventions en bout de ligne qui viennent avec ça.
Des fois, tu dis?
Ouais, voilà. Mm-hmm. Ben,
oui, des fois. Souvent. Ouais, souvent.
Des fois, souvent.
Ouais.
Alors, il n'y a pas de c'est il faut aiguiser son regard. Il faut peut-être prioriser aussi. Et à long terme, on verra. On verra qu'est-ce qui se passe à long terme. S'il y a le bassin de lecteurs qui est réceptif et que tout le monde est encore là d'une année à l'autre, ce qui est souvent un signe que ben, ce qu'ils ont fait pendant leur dernière année de production, c'était pas si mal s'ils sont encore là cette année. Bon, encore là, c'est pas un regard cynique, monsieur. Je me dis, j'essaie d'être un petit peu positif là-dedans. Ben, c'est ça.
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une industrie, le livre. Là.
Oui.
Et que c'est un écosystème où il y a... C'est une chaîne, il y a plusieurs maillons. Et pour que ça se rende en bibliothèque ou en librairie, il y a beaucoup de... Il y a une longue chaîne, là.
Il y a une longue chaîne. Il y a du travail en amont. Ouais. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a d'adapter le marché. En fait, ce qui est produit en Europe pour le Québec, on est deux marchés complètement différents, mm-hmm. on le sait bien. Il y a beaucoup de prises de décisions avant d'arriver en librairie pour présenter notre programme.
Hey, d'ailleurs, tu dis ça. Est-ce que tu es en contact avec des collègues qui font ce travail-là en Europe?
Je l'étais un peu. On a eu à l'occasion la chance d'avoir des réunions à Paris au bureau maire. Et
ah
de
oui.
parler avec...
Ça, c'est plate à Paris.
Ah, ben, c'est, écoute, vas-y pas. C'est pointable.
C'est bien mieux à maison en pyjama, en visioconférence.
Pourquoi partir quand je pars chez moi?
Mais c'est comment pour eux, là-bas, le travail de représentant? Tu sais, on a l'idée que, ah, l'Europe, la France, la Belgique. Tu sais, la Belgique, c'est la patrie de la bande dessinée. Ouais. Est-ce que, comme représentant, ils débarquent dans les librairies avec des verres fumés, un indicatif musical, le Sing Peace and Love en rentrant avec les confettis ou...
Je serais curieux de savoir. J'ai ouais. pas vécu de rencontre. J'ai pas assisté à ça. Donc...
Hey, tu sais, mettons, ouais. toi, t'es représentant, puis tu vas rencontrer les acheteurs de la FNAC. Là.
Ouais.
Hey!
C'est énorme.
Et qu'il y a un stress, là, parce que si tu ouais. fais mal ton travail, tu viens... Ben non, mais je pense que t'es au courant, oui, je pense oui, que tu retournes oui, chez oui. vous en pyjama, ouais. là, mais je veux dire, c'est stratosphérique, ouais. là.
Ce que j'ai assisté, c'est le rapport entre les représentants et les éditeurs. Donc, les représentants étaient beaucoup plus frontaux dans leurs commentaires qu'on est qu'au Québec.
Ah oui, ben
si
oui.
un éditeur arrive avec quelque chose, puis on n'est pas nécessairement d'accord à 100%, je pense qu'on va marcher sur des œufs. On va essayer ouais. d'être plus stratégique. Et des fois, la décision est déjà prise, et peu importe ce que tu vas dire. Et là-bas, chantaient des fois des éditeurs qui avaient un peu peur de leurs équipes commerciales, qui leur présentaient des trucs et ils appréhendaient les commentaires d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Mais c'est une autre culture complètement.
Oui.
C'est rattaché à ça.
Oui, c'est un peu frontal.
C'est un peu frontal.
Puis on parlera même pas du sens de la hiérarchie là-bas, mais ne ouais. serait-ce que... argumenter, on n'est pas très bon ici là, par rapport à eux. Là. Puis nous ici, en plus, on prend tout personnel. pour faire affaire avec des gens de là-bas, faut pas prendre les choses personnelles. Hein?
Non.
Parce que sinon, on est malheureux. faut pas être trop fragile. Sans te peinturer dans le coin du mur, il faut que je te pose la question. Comme lecteur... Bon, évidemment, tu lis beaucoup. Est-ce qu'il y a, dans ces dernières années, ou quelque chose à venir, est-ce qu'il y a un album, toi, vraiment, qui... est-ce qu'il y a un album qui t'a profondément marqué comme lecteur?
Écoute, il y en a plusieurs. Là, il y en a un qui drôlement vient à l'esprit, puis aucune... il n'y a pas de punch, il n'y a pas d'actualité, mais c'est In Waves.
Ah oui, chez Casterman.
Chez Casterman, Monsieur Duong, donc le nom m'échappe.
Oui, oui, oui.
Écoute. Hein.
Couverture bleue,
bleu,
c'est.
Exactement.
Sur le, c'est un surfer ou une surfeuse.
En fait, c'est l'histoire du surf.
Oui, oui, c'est
et
ça.
Et de la perte d'une amie de l'auteur. Ouais. Et cette proposition-là, je vais te parler du surf et de la mort. Et tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le truc qui m'a peut-être le plus chamboulé. Dans ce qu'a fait Casterman dans les dernières années. Donc, très, très... une espèce de niveau de sensibilité qui est génial. C'est un petit chef-d'œuvre comme ça. C'est un truc qui n'est pas nécessairement mentionné encore très, très souvent, mais c'est un album qui a fait une marque importante.
C'est vrai que c'est un album bouleversant.
Ouais.
Oui. Et c'est tellement brillant... la manière dont il aborde le deuil, alors qu'après ma barre, on se dit surf et deuil. Mm. Mais cette idée, moi j'ai trouvé cet album-là extraordinaire parce que. Et puis ça fait quand même quelques années ça.
C'est 2019 ou 2019, il me semble.
Ah oui, hein.
Dans ces eaux-là.
Donc avant, dans le monde d'avant.
Dans le monde d'avant, oui. Ouais, 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 ouais.
Mais cette idée aussi, c'est ça que. L'eau. C'est drôle, hein? J'ai eu ce réflexe-là la première fois que j'ai visité le Ground Zero à New York. Le mémorial qu'ils ont fait aux deux anciennes tours jumelles. Hein, ils ont conservé le diamètre des tours et ils en ont fait des chutes intérieures. Et ce qui est fou, Et ce qu'on découvre rapidement, c'est que la symbolique de ça, c'est que on témoigne de la perte, hein, le trou, c'est ça finalement. Mais l'eau qui ruisselle, c'est la vie qui continue.
Et il fait une analogie extraordinaire avec le deuil en disant, le personnage s'interroge en disant, c'est quoi mon rapport avec le deuil au quotidien? Est-ce que c'est un truc? Et c'est des vagues qui partent et qui reviennent. Mm-hmm. On est là.
Moi, il y a un album chez vous qui est paru, qui m'a... c'est chez Casterman, c'est Jim,
oui,
de François Cuiten, sur le deuil de son, ouais, chien.
Une claque, hein?
Et moi, David, j'ai lu ça en PDF sur ma tablette, ouais, et j'avais mis ma tablette à plat sur la table.
Ouais.
Et j'étais obligé d'arrêter parce que je pleurais tellement que mon iPad était mouillé. J'essayais de tourner les pages. Premièrement, François Cuiten.
C'est quand même.
C'est une figure fondamentale de la bande dessinée contemporaine. C'est un illustrateur, c'est un créateur. Gigantesque et qui nous propose un petit livre dans le format, mais à la portée extraordinairement grande, mais le deuil de son chien, le deuil d'un animal. Et tu sais, je sais souvent les gens qui n'ont pas d'animaux et qui croisent des gens qui font le deuil d'un animal de compagnie comme un chien, un chat, ils comprennent pas.
Mm.
Pas parce qu'ils n'ont pas de cœur, c'est qu'ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été confrontés,
ouais,
à la réalité de partager sa vie au quotidien avec un animal de compagnie qu'on traite ici. En tout cas, moi, je parle pour moi, là. Tu sais, ma chienne, c'est un enfant, c'est un humain, dans sa tête aussi, d'ailleurs. C'est en partie le problème. mais dans ce livre-là de François Cuiten, Jim, ben c'est ça. C'est un livre qui raconte en images l'absence de son chien.
C'est un livre thérapie. C'est un livre. Quiconque a vécu un deuil animalier retrouve quelque chose là-dedans, qui est d'une simplicité désarmante,
ouais,
et qui est magnifique.
Mais sur le deuil en général, oui, c'est, le point de départ, c'est le deuil d'un animal, mais ouais, comme In Waves, c'est un livre sur l'absence.
Ben, écoute, et moi, sans rentrer dans les détails, j'avais perdu un ami très proche au même moment. Et bon, la BD, j'en lis depuis que je suis tout jeune, mais ça m'a fait rappeler à quel point une BD peut être avoir un angle thérapeutique très, très fort.
Ah ben
qui,
oui.
Une lecture qui arrive au bon moment où tu attendais pas ce livre-là, il tombe entre les mains et j'en parle aujourd'hui, 5 ans plus tard.
J'espère que les libraires... j'espère que ces livres-là continueront d'avoir une belle vie en librairie et en bibliothèque, parce qu'effectivement, c'est des œuvres qui ont leur propre qualité intrinsèque,
oui,
quant au standard du médium, mais qui tendent vers l'universel. Et puis c'est des œuvres aussi qui sont fortes parce qu'elles passent par le langage propre, mm-hmm, de la bande dessinée.
Mm-hmm.
On fait ça au cinéma. Ça se transpose pas. Le médium de la bande dessinée a ses propres codes. Et ouais, dans l'exemple des deux albums nommés, je trouve que le médium les sert tellement bien. J'espère que tes libraires en ont pris du Jim aussi. Hein?
Oui. Ça a très, très bien fonctionné. Mais c'est aussi le défi du boulot qu'on fait, c'est-à-dire de... Oui, il y a l'aspect nouveauté qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie, mais de continuer à faire vivre ces bons livres de fond, ouais, qu'on veut qu'ils se retrouvent en librairie.
Et la beauté de ça aussi, c'est que maintenant, on voit chez les éditeurs une tendance à maintenir le fond en rééditant des volumes dans des formats plus petits,
ouais,
dans des formats plus économiques.
Qui est un écho au manga. Quand même.
Ah ben oui, ça c'est une réponse directe.
Réponse des,
oui,
éditeurs. Oui, oui, nous, oui, aussi, oui, on peut vous faire du format un peu moins cher, abordable.
Ben, d'ailleurs, t'as dans ton catalogue les éditions de la Pastèque.
Oui.
Hein? Le,
oui,
succès de Rosalille, mm-hmm, a permis à cette structure éditoriale-là, les éditions de la Pastèque, d'investiguer davantage. Et là, ils ont lancé leur propre collection poche et ça leur permet de garder au catalogue des œuvres de fond. Qui ont eu une belle fenêtre de vente. Puis bon, c'est quand même chouette d'avoir Comment faire de Guy Delisle. Écoute, je pense que c'est la quatrième version de ce livre-là. Mais c'est du Guy Delisle.
Ben oui,
d'ailleurs, dire, il, ouais, était dans le top 10 des ventes du 12 août.
Écoute.
Tu sais, c'est pas de nouveauté,
ben non,
là.
Ben non.
La première édition de ce livre-là remonte à milieu des années 2000.
Oui.
Il me semble la couverture brune, souple. Ouais. Mais donc, on sent cette volonté-là des éditeurs, teintée du succès du format manga, mais aussi du fait que la vie coûte cher puis qu'à un moment donné, la bande dessinée, c'est quand même un luxe. Là. Mm-hmm.
Ben écoute, c'est une alternative. Hein. C'est une de plus. Pour que la personne qui rentre en librairie veut, qui veut ressortir avec un truc peut aussi prendre la BD. Cela dit, autant j'avais des réactions assez vives quand je présentais du roman... Bon, là, je vais pas rentrer dans le roman graphique. C'est le moins...
Hey, tu veux vraiment aller là?
C'est interdit.
Non. Il n'y a rien d'interdit à mon micro. Toi, est-ce que tu lis des romans graphiques?
Est-ce que tu lis des romans graphiques? Je lis que des romans graphiques, Jean-Dominique. Rien d'autre. Pas de la BD, là, du roman graphique.
Du roman graphique, ouais.
De la BD, ouais. À 50$ et plus. Alors ça... Il y avait une résistance très forte il y a quelques années. Mm-hmm. Et maintenant, grâce à des Craig Thompson, grâce à des... bon, je remonte à Margin Satrapi, Mouse, tu sais, on nommait, il y a plein de classiques. Ben, c'est autour de ça. Mais tu veux avoir ce morceau-là dans ta bibliothèque.
D'ailleurs, tu parlais de Craig Thompson. Vous avez, en traduction française, j'ose dire le retour de Craig Thompson.
Je pense que oui.
Parce que, bon, après Blanket... Et moi, je considère pas que Blanket, c'est son meilleur album.
Je suis d'accord avec toi.
Chunky, Goodbye Chunky Rice.
Ouais.
Ah, mon Dieu.
Habibi?
Quand on... Non.
Habibi, c'est excellent.
Oui, je dis pas que c'est pas excellent, mais on parlait du deuil. Ouais. Goodbye Chunky Rice, là, c'est un album extraordinaire. C'est son premier album. Mm. Et peut-être parce que j'ai un attachement très personnel, puis que là, je manque un peu de sens critique à l'égard de ce livre-là, mais il y avait une fraîcheur et une densité dans ce livre-là. Bon, Blanket, c'est l'album, vraiment, qu'il a consacré comme grand auteur.
Oui.
Habibi, c'est un morceau de bravo aussi. Bon, tu sais, ses carnets de voyage, on sentait vraiment qu'il était inspiré par ce qui se faisait du côté...
À l'assaut, un peu, peut-être.
Même. Oui. Beaucoup du côté européen. Je pense qu'il rêvait, il me semble que j'avais lu en entrevue qu'il disait « Moi, j'aimerais ça avoir mon album européen. »
Oui.
Donc, c'est ça. Et là, paraît cette saison, Jinsan,
oui,
de Craig Thompson.
Je suis un peu énervé.
Oh! Que c'est
formidable.
Bon!
Ouais.
Oh! Et c'est comment... c'est à la fois de l'autofiction, du documentaire. Oui. C'est une lettre d'amour aussi au médium de la bande dessinée. C'est...
À sa famille aussi.
À sa famille aussi.
Très fort avec sa famille.
Oui, parce que sa famille, il avait beaucoup abordé le rapport au père dans Blankets.
Ben là, on se demande, quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe avec papa?
Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben là, on voit.
Oui, on comprend.
Ouais.
Donc, les lectrices et lecteurs qui ont lu Blankets,
oui.
Moi, je leur conseille fortement de lire Jinsan, parce que c'est un album, on parlait de miroir tantôt, c'est deux albums qui se répondent.
Et là, tu as le parfait exemple du travail du représentant libraire. Parce que, avec un titre comme ça, c'est-à-dire que le dernier Craig Thompson avant ça, c'était Space Bullet.
Oh oui,
on
ça
se
a été
souvient
oh,
que ça a été un bide, pas ça. Été, et il en parle aussi dans Jinsan.
Oui, il en parle là-dedans.
Donc, j'arrive devant mon libraire et certains n'étaient même pas ouverts en 2017. Il y a une vague de nouvelles librairies dans les dernières années et si je n'ai pas un libraire qui connaît Craig Thompson ou peut-être on a entendu parler tout ça, ben, il va me regarder en me disant « Ben parfait, je vais en prendre un. » Et là, c'est mon travail de faire un petit instant. Je pense que ça va être important. C'est un livre extraordinaire. Ça risque de se retrouver sur des listes de prix.
Oh oui.
J'ai eu 10 raisons pour lesquelles tu devrais t'y attarder. Donc, cette discussion-là, qui ne peut pas nécessairement se faire si c'est une grille Excel, c'est un fichier. Donc, cette discussion-là, de s'arrêter sur le contenu, ben c'est là qu'on fait une différence.
Ben ça, c'est un cas de figure dont on parlait tantôt. Là. Un album d'un auteur, puis là, ben une créatrice, à un moment donné, ça se peut pas un parcours sans faute. Et c'est normal dans la vie d'un artiste, d'une artiste. Bon, si l'artiste réussit à faire un chef-d'œuvre, c'est déjà ça.
Oui.
Mais c'est un chef-d'œuvre n'est pas garant d'un prochain chef-d'œuvre.
Exact.
Et Craig Thompson n'échappe pas à cette logique-là.
Et on n'a pas 5 ans de recul. On peut pas dire, hey, il y a 5 ans, tu te rappelles quand Jinsan est sorti, c'était super, puis ça a été un succès. Là, on est en plein dedans. Et la prise de décision est assez rapide aussi quand je présente ça au libraire. Écoute, puis avec le nombre de titres qu'on a, on passe seulement un court moment pour chaque titre. Mais ça, c'est majeur, c'est formidable. Puis bon, après ça. Les libraires qui connaissaient Craig Thompson ou mes spécialistes BD le savaient et jouent embarque.
Et là, vous avez en français l'avantage du format. Parce que tu sais que oui. ça, c'est paru en petits fascicules. Exact. Et même plus petit que le format comics habituel. Là. C'était comme. Hey, mon Dieu, c'est dur à dire.
Mais c'est sous coffret, hein? Ce petit fascicule.
C'est venu, oui.
Vendu sous coffret.
En fait, c'était les fascicules, puis après, on pouvait acheter le coffret.
Exact.
Puis, mon Dieu, c'était bien obscur. Je pense pas que ça a connu un immense succès en fascicule aux États-Unis.
C'est pas une grande distribution.
Non, c'était un petit éditeur.
L'édition anglaise n'est pas avant mars 2025. La vraie édition intégrale qui sera
en librairie. Donc, vous l'avez en français.
L'imprimeur, peut-être signe du lien entre Craig Thompson et Casterman.
Ben, il a réussi son album, mais il a réussi cette idée de faire un album européen. La preuve, c'est ça. Mais au niveau des fascicules, moi, je me souviens à l'époque, quand ça apparaissait, j'avais un client. Mm-hmm. Je me souviens même, c'était Gabriel Morissette, l'auteur de bande dessinée qui achetait les fascicules. Ouais. C'était tout petit. C'était comme le format d'un cahier, d'un carnet de notes. Là.
Super la fun à gérer en librairie. Hein.
Ah oui. Puis les collectionneurs, en plus, qui s'en tiennent à un format, non. Avec un coffret en plus, non.
Non.
Non. Mais bon, en même temps, l'éditeur se dit, j'ai Craig Thompson, c'est des lecteurs de graphic novel qu'on appelle en français, on traduit librement roman graphique. Donc, on va viser une clientèle qui vont oser le mettre dans leur bibliothèque parce qu'il sera dans un enrobage d'un beau coffret. Mais c'est chiant. Ben, pour vrai, je parle personnellement. C'est chiant de lire des petits fascicules. Moi, je suis vieux, j'ai des foyers depuis l'âge de 24 ans. J'aime ça lire du grand format, puis... Donc, moi, j'invite les gens à ne pas rater cet album-là, cet automne. C'est un des albums phares, effectivement, qui va se retrouver sur une courte liste de prix, c'est sûr. Avec Manu Larsenet, La Route, c'est sûr. Il y a des chances. Bon, ça fait pas partie du catalogue que tu représentes, mais c'est sûr que ça fait partie, avec Craig Thompson, je pense, des titres... En tout cas, quand ils vont sortir le Festival d'Angoulême, quand ils vont sortir leurs albums en lice, là, quelque part en octobre, novembre, c'est clair que... Ça, d'ailleurs, le Craig Thompson, arrivé au Québec autour de...
On est en octobre.
Ah oui, c'est
début octobre, novembre.
Ben, en tout cas, je souhaite vraiment que tes libraires embarquent dans cet album-là, qui pourra peut-être effacer l'échec commercial de précédent album, qui était pas mauvais.
C'était sympathique.
Mais je pense que les attentes étaient trop élevées.
Exact.
Puis c'est aussi ça, l'idée d'un auteur qui a envie de se faire plaisir, mais à un moment donné, l'auteur a aussi est aussi redevable. C'est dommage, parce qu'il devrait jamais tenir compte de ces considérations-là quand il crée. Mais à un moment donné, ton œuvre s'inscrit dans une logique commerciale, puis ben si tu veux vivre, si tu veux être édité, si tu veux que les gens autour vivent...
Et les éditeurs veulent garder leurs auteurs importants, donc ils vont dire oui. Ah oui, tu veux faire des tout petits formats, couverture souple, hein? OK, oui, on y va. Tu sais, il y a tout ça qui embarque et on comprend, mais après ça...
Ben, il y avait eu ça à Rue de Sèvres, c'était-tu chez Rue de Sèvres, avec Louis Trondheim, le truc de Cosmos?
Non, tu parles peut-être de Xavier Dorisson avec Le Château des Étoiles?
Non, je parle de...
Louis Trondheim chez Rue
de Sèvres. Oui, t'as raison.
Le
truc d'espace, là, puis c'était un peu comme le donjon, mais dans l'espace, puis il y avait des artistes invités.
Infinity Eight. Oui, c'était Rue de Sèvres.
Ouais, ça, c'était sorti en fascicule. Ça aussi, j'imagine que...
Donc, c'est ça. On fait des comic books, on fait des albums intégrales après, on sort tout ça sur un marché. Ben voilà. Ouais. On s'en rappelle tous les deux, mais je suis pas certain que...
Oui, j'imagine qu'il y a des gens qui écoutent présentement et qui font...
De quoi ils parlent?
Ou qui ont vaguement un souvenir de... Ouais, moi, je me souviens... Mais en même temps, qui ne risque rien n'a rien. Donc... Ben
puis ils ont fait des t-shirts.
Ils ont fait des t-shirts.
Infinity 8.
Wow.
Ouais.
Et ça, j'imagine, t'en as vendu
3-4 je vends pas encore des t-shirts.
Ah non, OK.
On verra en 2025, mais c'est pas dans les plans.
Là, tu pourrais vendre un t-shirt avec une branche de ginseng écrit en dessous.
Ah!
Greg Thompson,
ben,
tu sais.
Écoute, là, ça, tu vois, j'embarquerai.
OK. M'inviterai à une réunion de département. Hey, David Kelly, merci beaucoup d'être passé à ce micro-là.
Merci de l'invitation.
Merci d'avoir démystifié ce travail qui est essentiel dans la chaîne du livre, je le répète. Je te souhaite une longue carrière et je te souhaite de beaux catalogues à défendre.
Merci.
et de belles œuvres à distribuer, à essaimer dans nos librairies qui se rendront par la suite dans nos bibliothèques. David Kelly, merci beaucoup. Pour suivre les activités du groupe Madrigal, rendez-vous au youtube.com/acommercialmadrigalcanada. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca. À bientôt!